l'Église. 24 jours pour mieux aimer l'Église avec les pères de la fraternité Saint-Vincent Ferrier. Aujourd'hui, l'Église avant Jésus-Christ avec le père Henri.
Chers amis, l'Église a été fondée par notre Seigneur sur la croix le vendredi saint. Mais était-elle portée auparavant par le désir de Dieu de sauver les hommes? Était-elle présente de quelque manière avant l'incarnation de notre Seigneur? Était-elle annoncée dans la Sainte Écriture, dans l'Ancien Testament? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Dieu prépare l'avènement de l'Église et de sa tête, le Messie, dès la chute d'Adam et Ève. La préparation se fait par des annonces plus ou moins claires, dès le début du livre de la Genèse, puis par les prophètes. La nouvelle alliance est préparée au cours de l'ancienne, et comme le dit saint Augustin, le Nouveau Testament est caché dans l'ancien, et l'ancien est révélé dans le nouveau. Premièrement, Dieu nous instruit de l'universalité de l'Église. Elle comprend tous les peuples, pas le seul peuple hébreu. Alors que l'alliance entre Dieu et les Juifs était limitée à ce seul peuple, l'Église embrasse tous les peuples. À Abraham, Dieu dit en effet, « En toi, toutes les nations seront bénies ». Dieu donne à son Fils en héritage toutes les nations. Écoutons encore Isaïe. Venez à moi, écoutez et vous vivrez. Je m'engagerai envers vous par une alliance éternelle. Ce sont les bienfaits garantis à David. Lui, j'en ai fait un témoin pour les peuples un guide et un chef. Toi, tu appelleras une nation inconnue de toi. Une nation qui ne te connaît pas accourra vers toi à cause du Seigneur ton Dieu, à cause du Saint d'Israël, car il fait ta splendeur. Cette Église pour tous les hommes, tous les peuples, toutes les langues est donc bien présente, déjà annoncée dans l'Ancien Testament. Les trois parties de l'Ancien Testament, à savoir la Torah, les prophéties et les psaumes, rendent témoignage à ce mystère. Deuxièmement, Dieu nous propose aussi des figures symboliques de l'Église. L'arche de Noé est la figure de la barque de Saint-Pierre. Lisons le récit du déluge dans le livre de la Genèse. Et voici que moi, je fais venir le déluge, les eaux recouvriront la terre, et ainsi je détruirai sous les cieux tout être de chair animé d'un souffle de vie. Tout ce qui vit sur la terre expirera. Mais avec toi, j'établirai mon alliance. Toi, tu entreras dans l'arche, et avec toi, tes fils, ta femme, et les femmes de tes fils. Et ce fut le déluge sur la terre pendant 40 jours. Les eaux grossirent et soulevèrent l'arche qui s'éleva au-dessus de la terre. Les eaux montèrent et grossirent beaucoup sur la terre, et l'arche flottait à la surface des eaux. Vers le soir, la colombe revint, et voici qu'il y avait dans son bec un rameau d'olivier tout frais. Noé comprit ainsi que les eaux avaient baissé sur la terre. La colombe et son rameau sont le signe de la paix qui est rendue à la terre par l'Église. Dieu dit encore à Noé et à ses fils, « Voici que moi j'établis mon alliance avec vous, avec votre descendance après vous. L'arc sera au milieu des nuages, je le verrai, et alors je me souviendrai de l'alliance éternelle entre Dieu et tout être vivant qui est sur la terre. » Que nous apprend ce passage? Sur décision de Dieu, ne sont sauvés à travers l'eau que ceux qui entrent dans cette arche, les autres meurent. En passant à travers l'eau du baptême, nous sommes sauvés et entrons dans l'arche qui nous mène au ciel, cette arche. C'est l'Église. Troisièmement, voyons deux femmes de l'Ancien Testament figurent entre autres femmes de l'Église épouse du Christ. La première, Asnath, est la fille d'un prêtre égyptien. Elle est unie à Joseph, le fils de Jacob, au moment de sa glorification, sans avoir partagé les souffrances de son rejet. Le pharaon l'établit sur tout le pays d'Égypte. Il le fait monter sur son second char et on crie devant lui « Abrek », c'est-à-dire « qu'on s'agenouille ». Il représente un plus grand que lui, à savoir le Christ établi Seigneur sur tout l'univers après sa résurrection et son ascension. L'épouse qui est donnée à Joseph par le Pharaon est ainsi une belle image de l'Église qui participe déjà moralement à la gloire du Christ à la droite de Dieu. Joseph, lorsqu'il reçut Asnath, allait bientôt renouer ses relations avec ses frères dans un esprit de grâce. Tout comme le Christ, après sa résurrection, qui fit pleuvoir la miséricorde sur les siens qui l'avaient pourtant trahi. L'Église, tirée des nations comme Asnath l'était de sa famille égyptienne, partage sa gloire céleste actuelle. Une deuxième femme, Abigaël, est l'épouse de David, lui-même type du Christ, le roi souffrant et méprisé. Cette femme, humble et sage, discerne par la foi la grandeur de loin de l'Éternel, alors qu'il est l'objet des outrages de Nabal, son mari impie, et de la haine de Saül, le roi que l'Éternel a rejeté. Nabal représente d'une part Israël, qui a eu la folie de méconnaître son Messie, et d'autre part tous les incrédules qui aujourd'hui méprisent Jésus, le Fils de Dieu. Nous voyons Abigaïl se prosterner devant David, attendant tout de sa grâce et anticipant le jour de son élévation sur le trône. Elle est un modèle pour nous, chrétiens, dans notre rapport au Christ, par sa piété, son humilité et la confiance sans réserve qu'elle a en celui qu'elle nomme son Seigneur. C'est après la mort de Nabal, frappé par Dieu lui-même, et à la suite de son union avec David, qu'Abigaïl devient pleinement une figure de l'Église comme épouse du Christ. Elle va désormais partager l'existence d'un David proscrit et pourchassé sur les montagnes de Juda, abandonnant pour lui la jouissance de ses biens terrestres. Ainsi, l'Église peut estimer l'opprobre du Christ un plus grand trésor que toutes les richesses du monde. Les prophéties de l'Ancien Testament sont précieuses pour nous faire deviner l'Église avant l'Église et voir le plan du salut préparé par Dieu avant tous les siècles. Aimons cette Église que Dieu apparaît de toutes ses beautés spirituelles pour nous.